De Radio Gémozo, j'espère que tu es en pleine forme en ce mardi 12 août. Une heure de rencontre, de musique, des invités qui débarquent avec leurs disques et leurs histoires. On parle, on écoute, on partage. Bienvenue dans l'odeur du son et aujourd'hui avec moi l'auteur Jérôme Bonnet. Bonjour Jérôme, comment ça va ?
Eh ben bonjour à toi Lia, ça fait plaisir d'être là.
Ben oui, je t'accueille toujours avec plaisir, je suis ravie que tu nous aies rejoint dans les studios de Radio Gémozo, comme à chaque fois. Alors, est-ce que pour toi, le son a une odeur, Jérôme, car tu es actuellement dans l'odeur du son ?
Le son a une odeur, effectivement c'est une question très profonde, je pense que oui. Après moi, c'est en matière de son, effectivement, je pense plus... à des lilas, à de la lavande, voilà. J'aime bien que le son soit doux, en fait.
Ouais, t'as voilà. Bien voyagé quand tout même à travers le son, toi. Hein. Alors, on explore les mots dans tous les sens possibles aujourd'hui, d'ailleurs. Les ressentis, les vibrations, tout en nous laissant porter par quelques disques chouchous. On discute avec toi de tes deux dernières sorties littéraires, Intime et Brume. Mais avant ça, quelle place a la musique dans ta vie, Jérôme ? Nouvelle question incontournable de cette émission.
La musique a beaucoup de place dans ma vie, aussi bien pour la création que pour le reste, en fait. Je pense qu'il y a une musique, une chanson pour chaque émotion, chaque instant. Et hier, c'est étonnant que tu me poses cette question-là, parce que habituellement, j'ai tendance à méditer avec un casque sur les oreilles. Et hier, pour la première fois, j'ai ressenti ce besoin d'enlever ce casque et d'écouter le son extérieur.
Chouette,
ça. Et ça m'a fait énormément de bien.
Ouais, c'est beau ça. Tu sais, parfois on écoute des musiques et on se dit « Ah là, je me vois bien dans l'ambiance, au soleil couchant ou dans ma voiture fin de journée ou assise en terrasse ou en jardin, dans un jardin. » C'est vrai que parfois, les sons nous emmènent vraiment dans une ambiance. Hein.
Tout à fait.
C'est incroyable. Alors aujourd'hui, on parle de tes deux derniers ouvrages, je l'ai dit, Intime, je parle de ton livre évidemment, c'est ton petit nouveau et il est assez différent de tes autres ouvrages parce que c'est une autobiographie dans laquelle tu parles de tes échanges avec le ciel et l'univers et avec le monde subtil comme tu le nommes. Alors forcément, je suis totalement ravie d'échanger avec toi sur ce sujet, hein, tu t'en doutes bien. Je cite, écrire ce livre est pour moi comme une nécessité, je partage simplement ce que j'ai vécu et compris et si ces mots trouvent un écho en voix, alors tout est juste. Et c'est un petit extrait du début d'Intime. Et tout est juste, et bien ça résonne fort parce que quand on s'immerge un petit peu dans la spiritualité, entre guillemets, hein, et bien on apprend que tout est juste, justement. Et on cesse de lutter. Et surtout, on vit dans la confiance, dans la foi, comme certains diraient.
Tout à fait, tout à fait.
C'est un petit peu le fil conducteur de cette émission.
C'est bien.
Parfait. Alors déjà, qu'est-ce qui t'a poussé vers cette écriture, vers cette mise à nu ? Parce que c'est quand même quelque chose, une autobiographie.
C'est, disons que c'était un peu, pas une obligation, mais c'était une demande justement de ces échanges que j'ai avec, comme d'autres, avec le ciel. Et il y avait ça. En fait, ça a débuté il y a quelques années. J'ai commencé par par écrit les messages un peu qui me transmettaient pour moi, mais aussi à destination des autres personnes, des questions que les gens pourraient se poser. Et puis est venue cette demande de faire ce livre. Alors au début, je pensais que ça allait être sous forme de recueil de sagesse spirituelle. Et au final. Ils ont décidé que je décide de me livrer depuis le début de mon arrivée ici sur Terre et ce qui m'a conduit à tout ça, quoi.
Okay.
Donc voilà.
Pour contextualiser un petit peu, là, t'es en train de nous dire que t'es un petit peu un canal.
Oui, on appelle ça comme ça, en fait. J'aime pas trop ce terme parce que ça fait un peu technique, un peu plombier, mais ou je sais pas, mais
non, tunnel, tu sais, où c'est fluide.
C'est ça, tout à fait.
Je trouve ça beau, moi.
Voilà, un petit tunnel, j'aime bien.
Donc du coup, tu reçois des messages et voilà, tu les transmets, des messages qui te sont adressés, mais pas toujours.
Pas toujours.
Et tu les transmets.
C'est ça, ouais. Ah ouais.
Super. Alors, il y a en vous une présence délicate, je cite à nouveau, cette messagère divine qui sommeille au creux de votre poitrine. Comment tu la décrirais, cette voix intérieure qui te guide ?
Elle est très bienveillante, elle est très respectueuse et surtout, elle apporte des réponses à des questions que je me pose et que d'autres se posent également. Et elle est un peu comme une confidente, voilà, tout simplement. Une main posée sur l'épaule et dit bon, ben voilà, on va y aller. Et puis, t'as posé cette question-là, ben on va en discuter, quoi.
Ouais. Tu disais que c'était aussi un petit peu comme une chaleur réconfortante à l'intérieur de toi.
C'est, tu vois, bizarrement, voilà, c'est très réconfortant. Ça vient comme ça, comme un souffle. Et déjà tout à l'heure, je m'interrogeais sur un truc et bizarrement, j'ai repris mon livre et je me suis repenché dessus et sur un passage qui correspondait pile poil à ça, en fait.
C'est rigolo, ça.
À une réponse, quoi.
Tu peux nous le citer, ce passage? Tu l'as encore en tête ou pas?
Je sais pas.
Dans les grandes lignes?
Dans les grandes lignes, en fait, oui, c'est quand on se pose la question de savoir si on se sent abandonné ou seul, ou quand on vit une dépression ou ou un burn-out, souvent on prend ça comme quelque chose de négatif, alors qu'en fait c'est une manière pour le ciel de nous offrir. En fait, c'est un cadeau doré, c'est-à-dire que c'est la manière de nous forcer un peu à enlever tous nos masques et à nous dénuder. Moi, j'appelle ça les feuillages sacrés parce que c'est un peu le terme qu'ils m'ont transmis.
Okay.
Mais en fait, à chaque difficulté, à chaque sentiment un peu, on va dire, un peu négatif, où on se sent un peu, je sais pas,
mise
à l'épreuve, etc. Et ben, c'est une manière pour eux de, ben, quelque part, de nous obliger à nous voir tel que eux nous voient, quoi.
C'est tellement beau. Est-ce que tu entends ça de façon distincte ou est-ce que c'est une sensation, quelque chose qui vient un petit peu dans ta tête comme ça ?
C'est vraiment un échange, des phrases qui arrivent et qui s'adaptent aux gens. Et hier encore, il n'est pas dans le livre, donc je pense qu'il y aura une version enrichie. Mais hier, c'est pareil, j'ai reçu... une réponse par rapport qui s'adressait plus au corps médical. Et c'est pour ça que ça a été tourné à destination du corps médical. C'était sur le thème de la greffe.
Okay.
Pourquoi telle greffe et telle transplantation ne prend pas forcément.
Mm-hmm.
Et donc ils m'ont fait écrire on va dire la pratique à faire, justement. En gros, il faut harmoniser les deux corps, c'est-à-dire rendre hommage à celui qui donne et le remercier et demander au nouveau s'il accepte la chose, en fait. Donc ça, on est vraiment sur ça va au-delà du côté physique et scientifique, c'est-à-dire c'est une forme de respect. En gros, ce qu'ils m'ont dit, c'est un peu comme si deux personnes là doivent se serrer la main et se dire, OK, est-ce qu'on part comme ça? Et si, effectivement, on accepte et on fait ce qu'il faut pour que ces deux personnes, entre guillemets, puissent se serrer la main, eh bien, il n'y a aucune raison que la greffe ne prenne pas.
Ah ouais, c'est énorme.
Voilà.
C'est énorme.
Donc, alors, ils expliquent bien que ça ne marche pas à tous les coups parce qu'effectivement, il y a d'autres choses qui peuvent rentrer en jeu, mais dans une grande partie des cas, il faut remettre ce protocole de respect et de rencontre entre le donneur et celui qui reçoit, tout en gardant bien évidemment le côté confidentiel. Et justement, ils ont évoqué ce côté, mettre une photo par exemple lors de l'opération pour qu'il y ait cette présence, quoi.
Incroyable.
Voilà.
Et puis il y a toute une histoire aussi, il faut avoir la foi dans ce qu'on fait, il faut que la personne qui reçoive le don ait aussi la foi, hein, j'imagine, qu'il y croit, parce que tout est possible en fait, mais on est toujours un petit peu boycotté, on s'auto-boycotte même nous-mêmes avec nos propres croyances limitantes,
tout
avec notre subconscient qui a vraiment imprégné des choses qu'on lui a apprises durant des années et des années, et ça, ça change la réalité possible.
Tout à fait,
voilà.
Tout à fait.
Et je fais une petite aparté sur ce que tu dis, ça me fait rebondir. Hier, ma collègue me disait, j'ai lu un article qui disait que les végétariens, les véganes même, avaient moins de possibilités, en tout cas plus de chances de ne pas avoir de cancer, parce qu'en absorbant de l'animal mort, il serait possible d'absorber aussi sa souffrance.
Alors effectivement, il y a cette idée-là, mais il faut pas non plus tomber dans l'autre excès. C'est-à-dire,
oui,
il faut bien comprendre en fait que toute vie, toute vie est là pour donner vie à autre chose.
Mmh.
Et à partir du moment, en fait, tout est dans le processus de la manière où l'animal va mourir.
Mmh.
C'est-à-dire,
oui, c'est
les Amérindiens, par exemple, dans leur tradition, ils accompagnent toujours,
oui,
quand ils doivent tuer une bête,
ouais,
ils accompagnent toujours cette bête jusqu'au bout, parce qu'encore une fois, on en revient toujours à la même chose, il y a ce respect.
Ouais.
Si effectivement, on fait de l'abattage pour faire de l'abattage, on n'a plus ce concept de vie, et effectivement, il n'y a pas la volonté de transmettre quelque chose de positif. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas qu'il faut rien manger, mais il faut le faire en conscience.
C'est
tout doit se faire
dire.
En conscience,
ouais,
en fait,
ouais,
avec respect, tout simplement.
Tout à fait. Petit aparté terminé, merci beaucoup. On en revient avec ces voix intérieures, ces messages, peut-être qui viennent de tes guides d'ailleurs d'où vient. D'où viennent tous ces messages? Est-ce que tu sais identifier?
Je sais, ça arrive, je pense, de partout. C'est la seule chose que je fais, c'est que je fais une différence entre la manière dont je reçois les choses, parce que souvent, on a des messages aussi qui peuvent arriver, qui sont un peu plus insistants, un peu plus virulent, et cela, je n'y accorde aucune importance, en fait, parce que ça peut arriver, c'est comme une radio, hein, tu chopes les,
ouais,
les messages au fur et à mesure, et si tu fais pas attention, effectivement, mais ça se passe dans le cœur, au niveau du ressenti, quoi.
Et puis, il faut être conscient de la dualité, bien sûr.
Exactement.
De l'équilibre de la vie. Est-ce que tu as toujours su écouter ces messages, ou est-ce qu'au final, ça a été un apprentissage?
Non, je pense que le message, comme je le dis dans le livre, c'est que tout le monde reçoit les messages. La radio, elle émet en permanence. La question, c'est que est-ce que chacun est prêt à l'écouter, la recevoir? Est-ce que certains s'interrogent en se disant « est-ce que je suis pas fou ?» Donc effectivement, je peux comprendre qu'il y ait plusieurs interrogations, mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas quelque chose qui m'est propre, c'est quelque chose qu'on reçoit tous, on est
oui,
tous faits de la même manière, c'est juste que voilà, est-ce qu'on est prêt à recevoir l'information, est-ce qu'on est prêt à y croire? Mais en tous les cas, eux se dérangent pas, se posent pas cette question là ils envoient le message à tout le monde, et puis ils font ce qu'ils doivent faire, quoi.
Oui,
voilà.
Je suis une femme sur les réseaux qui est médium entre autres, et qui dit qu'en fait ça n'existe pas, les dons. Tout le monde est capable de recevoir. Seulement, c'est aussi aligné avec notre propre énergie, notre propre fréquence. Il y en a qui reçoivent certaines choses plus que d'autres. Et puis, il faut être prêt aussi, aligné, prêt à ouvrir son cœur surtout.
Tout à fait.
Pour transmettre tout ça. Quel beau sujet aujourd'hui. On se lance dans mon premier disque chouchou. J'espère que cette playlist te plaira. Avec le titre Ramara d'Alex Serra. On écoute ça tout de suite. Somos luz, somos luz.
Vamos, vámonos pa' dentro que se acaba el tiempo y ya no puedo más. Dime lo que ves cuando miras pa'l centro. Cómo empieza a brillar y esa libertad que tú sientes, hermano. Está en tu corazón y te vibra cantando. Ya no voy a esperar, llámala.
Llámala. conexión. Si quieres que cambie, respira profundo y mira a tu lado por solo un segundo. Todo para nada, no hay nada perdido. Si tu corazón siente este latido, vamos a volar y tú vuela conmigo. Escucha mi voz que yo sé lo que digo. Tenemos tantos días para dar, muchas historias lindas para contar, un cuerpo hermoso para bailar y un alma lista para sanar. Tenemos tantos humanos que tocar y tantas manos para brindar.
Vamos, hermano, vívelo ya.
Voilà pour ce premier disque chouchou. Qu'est-ce que tu en as pensé, Jérôme ?
Ah, ça m'a bien transporté.
Ah
là.
Ouais, c'est incroyable.
Ah,
hein.
J'étais au fin fond de l'Amazonie. Là.
Ah, j'ai pensé tout de suite à toi quand j'ai écouté ce titre. Je me suis dit, ça, c'est pour Jérôme.
Ah ouais, non, merci. Là, c'était vraiment bien ce morceau.
Ah, génial. On parle avec toi de ton nouvel ouvrage autobiographique intime. D'ailleurs, tu m'en as offert un exemplaire. Merci beaucoup. J'ai cette grande chance. Alors, j'ai quand même appris à travers cet ouvrage que tu avais vécu au Togo.
Tout à fait.
Voilà, alors ça, je ne le savais pas, comme quoi c'est bien que tu écrives des livres.
Tout à fait.
On sait des choses, on apprend des choses. Et tu avais eu à ce moment-là une expérience forte de maladie. Hein. Ta vie avait été mise en péril à ce moment-là.
C'est ça, tout à fait. J'ai eu deux grosses maladies. J'ai eu le paludisme et puis une paratyphoïde qui m'a fait avoir une fièvre à 41 degrés en étant tout petit, quoi. Donc, donc voilà. Donc,
et puis le médecin assez sec qui dit à ta maman, il a l'air costaud, il s'en sortira, mais bon, voilà, ça passe ou ça casse, quoi.
C'est ça.
Ouais, c'est dur.
Non, au contraire, je trouve que on devrait parler comme ça aux gens. Parce que il n'y a rien de dur à dire, à votre enfant, s'il passe la nuit, il sera encore là. S'il passe pas la nuit, tant pis. C'est la réalité. Et ce discours-là, je l'ai entendu quelques années après pour mon fils aussi à Nancy.
Ouais.
Et honnêtement, je préfère entendre ce genre de choses parce que ça sert à rien de se voiler la face. D'essayer. C'est comme je dis dans le livre. Ouais. On dit il est décédé d'une longue maladie, etc. Mais ça veut rien dire. Appelons un chat un chat, un cancer. Parce qu'une longue maladie, il y a des personnes qui sont atteintes de la maladie de Charcot, d'autres qui sont atteintes de la maladie de Parkinson, qui sont tout aussi longues, voire plus longues que le cancer. Donc ça veut rien dire, une maladie longue. Qu'est-ce qu'ils devraient dire, quoi, ceux qui ont la maladie de Charcot, puis qui sont sûrs d'être condamnés.
Ouais.
Donc il faut apprendre à vivre avec, quoi.
Et puis là, on parle un petit peu de notre monde subtil, tout ce qui nous entoure et qui est bien plus grand que nous. Et on sait que l'aspect temporel n'existe
Exactement.
Carrément pas, à part ici.
Exactement, tout à fait.
Et moi, quand mon papa est décédé, j'ai été le voir et je lui ai dit que je lui souhaitais un bon voyage. Mmh. Et c'est vrai que c'est vraiment propre à notre culture, un petit peu, je sais pas, je dirais peut-être européenne, quoi. Mais dans d'autres cultures, on célèbre cette mort avec joie, en fait, hein, parce qu'on sait que c'est le début d'autre chose.
C'est ça. Et l'autre jour, j'ai découvert une vidéo sur YouTube qu'un ami m'a envoyée et je trouvais qu'elle résumait très bien les choses. C'est la différence entre les cultures occidentales et on va dire asiatiques, entre guillemets, le côté, c'est qu'en fait, d'un côté de la planète, on ne met pas des mots sur les choses. C'est-à-dire qu'en fait, on les constate, on les apprécie, on voit leur véritable nature. Mm-hmm. Et à partir du moment où dans la culture occidentale, on met des mots, par exemple sur ton nom, sur ton prénom, automatiquement, viennent les questions, viennent la description, viennent toutes sortes de problématiques qui nous éloignent et qui éloignent l'ensemble des gens de l'essence même de ce qu'ils ont sous les yeux. Et c'est en ça que c'est très profond, entre guillemets, il faut bien se dire que les mots, c'est important. Mais plus on va poser des mots sur les choses et plus on va s'éloigner de l'essence même de ce que nous sommes. Donc, parce qu'au final, sans poser de mots, il y a une différence, par exemple, si je te dis, devant, en face de moi, il y a l'IA qui est là. Et donc, ça veut dire que je cible, mais sans faire attention au monde. Alors que si je ne fais que te regarder, en fait, je t'inclus dans ce monde et je vois, tu fais partie de l'ensemble de ce monde-là. Et là, on est vraiment sur l'essence même des choses et de ce que nous sommes nous-mêmes, quoi.
Ouais. Voilà. Ouais, c'est toute une question de perception, ça. Justement, est-ce que l'expérience, chatouiller un petit peu l'au-delà, là, dans cette expérience de maladie, que ce soit pour toi ou pour ton fils, ça a changé la perception? Est-ce que ça change la perception, ce genre d'expérience-là, au-delà de dire « j'ai compris l'importance de la vie, la vie passe vite », comme un rapprochement, en fait, entre tout ce qu'on est, quoi, notre holistique.
C'est effectivement, ça change la perception. C'est comme si on avait touché du bout des doigts quelque chose qui était plus ou moins éloigné, mais on est beaucoup plus sensible aux choses et on recherche de plus en plus les choses vraies. On cherche à faire tomber les masques et, comme je dis souvent, les gens ne se rendent pas compte de toutes ces choses qui les entourent, qu'elles soient lumineuses ou non, mais comme je pense que si j'avais dû décrire ce qui se trouvait derrière certaines personnes, ils auraient pris peur. Il y en a qui auraient fui les mêmes qui aurait fui le côté un peu film horrifique, etc. Parce qu'on est très, 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 très loin de la réalité dans les films horrifiques.
D'accord. C'est rassurant.
Non, mais voilà, il faut bien se dire que il y a du bon comme du mauvais, mais encore une fois, ça fait partie de l'équilibre des choses, quoi.
Voilà. Et puis, toucher du doigt, je fais encore un petit peu, désolée, une aparté sur mon expérience personnelle, mais mon papa, quand il était sur la fin de son existence ici, sur Terre, juste avant, il levait la main et il pointait du doigt ailleurs, et c'était incroyable, c'était vraiment incroyable à vivre. Qu'est-ce que tu as véritablement eu envie de transmettre, toi, à travers ce livre intime ?
J'ai eu envie de transmettre, d'essayer de faire prendre conscience que on vit tous des expériences un peu assez particulières, que rien n'arrive par hasard, les rencontres et tout ce qui nous arrive dans notre vie, c'est une question de choix, de libre arbitre, qu'on nous met des choses devant nous, mais qu'encore une fois, avec le libre arbitre, on nous laisse le choix d'y aller ou pas, et surtout de parler, j'avais envie de parler justement de toutes ces expériences un peu extravagantes, extrasensorielles qui m'ont amené à de plus en plus aimer les choses, aimer la vie, et essayer de découvrir ce mystère que je suis. Et comme je le dis dans le livre, si ce livre peut amener le lecteur à s'interroger sur sa propre nature et sur son propre mystère, c'est bien. Je cherche pas du tout à convaincre. C'est plus, c'est plus un témoignage, en fait. C'est comme si ça venait compléter ce que j'essayais de décrire aux gens dans ma vie de tous les jours, en fait. Voilà.
Est-ce que parfois tu as été sceptique?
Oui.
Ouais.
Enfin, c'est parce que c'est pas anodin, même si j'ai toujours été intéressé par les mystères de l'univers, etc. Mais je prends par exemple, je décris donc des témoignages dedans parmi d'autres, hein, parce qu'il y en a une multitude.
Ouais.
Mais je raconte par exemple le jour où à un moment donné, il y a quelques années, je sentais des présences autour de moi. Ça faisait des années que je sentais, mais là, je me suis dit, Jérôme, bon, allez, ton petit côté cartésien, il a besoin d'être rassuré ou d'essayer de comprendre. Et j'étais tout seul à la maison et je me suis mis assis sur le canapé. Dehors, c'était tout calme, j'avais éteint tous les appareils, tout, il n'y avait que mon dictaphone qui marchait. Et pendant 10 minutes, enfin voilà, j'ai dit, voilà, je branche l'appareil, si vous avez quelque chose à dire, c'est parti, mais vous avez 10 minutes. Et à bout de 10 minutes, j'ai arrêté. Et dans les 5 premières minutes, on n'entend rien, ça fait comme ça. Et au bout de 5 minutes, on a l'impression que la porte s'ouvre de chez moi. Il y a des gens qui rentrent comme si c'était dans une salle de conférence. Et là, c'est parti. On entend des hommes, des femmes, tout ce que tu veux. Et ça fait les 5 dernières minutes. J'ai coupé le truc. Après, je suis allé écouter sur ordinateur. Et je me suis dit, OK. Et là, j'ai fait venir un voisin qui était un peu, voilà, qui est un peu curieux, etc. Et je lui fais écouter. Et il écoute, il dit, ouais, effectivement. Puis il dit, là, t'as entendu? Mais j'ai dit, quoi? J'ai entendu quoi? Il me dit, repasse. Il avait entendu quelque chose que je n'avais pas entendu.
Ouais.
Et en fait, pendant 10 secondes, au milieu des paroles, on entend les gens qui posent des questions, qui disent, voilà, dis à celui-là ça, dis ça, demande-lui ça. Et au milieu de ces paroles, d'un coup, on a, comme si le ciel s'ouvrait, on entend un chant grégorien, des chants grégoriens qui sortent. Et pendant 10 secondes, et on entend ces chants grégoriens, ça se referme et les paroles reprennent. Et ce fichier-là, je l'ai chez moi sur un MP3 parce que pour moi, c'est une preuve comme une autre. Et
oui.
Je le mets à disposition de tous ceux qui...
Ça met les poils, ça.
Mais voilà. Et je n'avais pas entendu. Pourtant, j'avais... Et lui a entendu les chants grégoriens. Et c'est lui qui m'a fait percevoir la chose.
Incroyable.
Quoi.
Ouais. Donc là, impossible de rester dans le scepticisme.
Non.
OK. Est-ce que ça a développé une foi en toi toute épreuve, finalement? Inconditionnel.
Je pense que la foi, elle est pas complètement à toute épreuve parce qu'on s'interroge quand même toujours,
oui.
On se demande. Mais ce qui est sûr, c'est que il y a une phrase. Bah d'ailleurs, je le mets au début du livre, un extrait d'une chanson de Silla là,
oui.
Qui s'appelle Seul un fou.
Oui.
Et il y a une phrase qui m'a marqué. Il dit c'est avoir la foi, enfin entre guillemets avoir la foi au point de rentrer avec le sourire en enfer en croyant à Dieu. Et ça résume bien la chose. C'est quand on a la foi, on serait capable, je pense, de rentrer nous-mêmes dans l'enfer avec ce sourire, quoi.
Ouais, elle est incroyable. Hein,
ouais.
D'ailleurs, ce passage,
ouais.
J'ai vraiment beaucoup aimé lire tout ça. D'ailleurs, j'ai hâte de dévorer ce livre. Je pense que dès que tu vas partir, je vais juste arrêter de travailler et me plonger dans cet ouvrage. Non, je rigole, je suis en vacances bientôt. Je vais le prendre avec moi. Comme ça, il va m'accompagner pendant mes vacances.
Mm-hmm.
Et puis, il y a des fois, il y a des choses qui résonnent en nous et ça amène une dimension incroyable aux choses. Et je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à un petit peu aux épreuves que l'on nomme difficiles. Et simplement, c'est juste une espèce de petit... rebondissement, une petite impulsion que l'on nous met pour qu'on puisse s'ouvrir à quelque chose de bien plus grand pour se rencontrer et rencontrer l'ailleurs, quoi. Et ça, c'est incroyable.
C'est ça.
Je me suis fait casser la main il y a quelques années et j'ai commencé à rencontrer cette spiritualité-là. Et quand je vous dis je remercie cette expérience, parfois les gens, ils comprennent pas trop. Mais en fait, moi, c'est la meilleure expérience que j'ai vécue, quoi. Parce qu'à un moment donné, ça m'a amené vers... toute autre chose.
C'est, disons qu'il faut saisir les opportunités. Tu vois, par exemple, l'autre jour, dimanche, je suis allé en promenade, il y avait le marché aux plantes, et je me suis dit, bon, il y a du monde, je vais aller ailleurs, un peu plus loin dans la forêt, etc. Et j'avais découvert un coin super sympa et qui m'obligeait à faire demi-tour avec la voiture. Et au moment où je fais demi-tour, je vois un couple de personnes. Et alors, on se met à discuter et on discute. Puis là, ils commencent à me dire, nous, on croit ça. Et du coup, je me suis garé. On est resté 4 heures à discuter sous
incroyable.
Les arbres, moi assis sur une glacière, eux à me raconter leur... tu vois. Et en fait, j'ai découvert, ils m'ont passé le contact de quelqu'un, que je pense que je dois rencontrer, c'est prévu dans 2 semaines. Mais voilà, il faut saisir. C'est souvent dans les endroits où on s'attend le moins que on croise des gens.
Ouais, puis des synchronicités des fois. Exactement. En fait. La dernière fois, j'avais pas envie de rentrer chez moi, un petit peu dans un état maussade, etc. Mm-hmm. Et j'étais aux bibliothèques vivantes. Oui. Je suis arrivée là, j'ai voulu y aller. On m'a dit, il y a un monsieur qui est disponible. Il m'a dit, ah bon, vous avez bien aimé mon résumé. J'ai dit, pas du tout. Je n'ai pas lu. On m'a dit, ce monsieur est disponible. Je suis venue. Et en fait, il m'a parlé de spiritualité tout le long.
C'est ça.
Et ça m'a éclairé. Et là, on a une espèce de joie, mais qu'on ne peut pas définir.
Exactement. C'est ça, entre guillemets, ce que j'appelle la fluidité, en tout cas la foi. C'est-à-dire, la foi, c'est pas quelque chose de religieux. La foi, c'est de se dire, là, je suis allé dans un truc, j'ai suivi... Bon, je me suis laissé porter et en fait, ça, j'ai appris quelque chose de nouveau sur moi et sur les autres, en fait. C'est ça. Et pour moi, c'est ça la définition de la foi. C'est de se laisser porter sans savoir ce qu'il y a derrière, mais tout en sachant qu'il y a quelque chose de bienveillant qui va nous amener quelque chose de plus pour nous, quoi.
Ah, c'est beau, là. Voilà. J'ai envie de laisser un petit mouvement tranquille après ces paroles. On va se lancer dans mon deuxième disque chouchou, un remix du morceau « Je te laisserai des mots » que j'affectionne particulièrement. Mm-hmm. Et cette version-là m'a beaucoup plu. Mm-hmm. On écoute ça tout de suite et on se retrouve juste après. Pour ce petit moment suspendu, qu'est-ce que tu en as pensé ? Ah, il y a de l'émotion là.
Il y a des larmes là. Ça m'a beaucoup parlé là.
Et puis en plus, je trouve que c'est complètement dans le contexte, tu vois, parce que quand je l'écoute, je pense à autre chose. Mm-hmm. Mais là, on pourrait carrément dire que c'est, tu vois, tout ce monde là.
C'est ça.
Quand tu, voilà, ramasse-moi quand tu voudras, quoi.
Très beau.
Ça, c'est incroyable. Oui, j'adore ce morceau. Tu racontes une expérience dans ce livre, donc intime, lors de ton adolescence où tu étais toqué, mal dans ta peau, c'est le cas de le dire, d'où l'eczéma peut-être.
Ouais.
Et tu as perçu une présence qui s'enivrait, se délectait, tu dis, de ta souffrance en fait.
Ouais, c'est... comment dire ? C'est... Au moment où je vivais ça... J'ignorais totalement, enfin même si j'avais vu ce visage, cette chose-là près de moi. Quand on est adolescent, puis qu'on va dire à sa mère ou à son père, bah, écoute, là je viens de voir le diable ou je viens de voir un démon, je ne sais pas comment t'appelles ce genre de choses. Et que ce démon te dit, je sais que ça peut paraître bizarre aux auditeurs d'entendre ce genre de choses, mais ils doivent nous prendre pour un fou, mais ça j'en ai rien à faire. Qui te dit, si tu fais pas ce que je te dis, si tu fais pas ça, il va y avoir un souci, un de tes proches va tomber malade, ou voilà. Et c'était difficile d'avoir ces tocs, etc., parce qu'on se sentait un peu manipulé. Je me sentais un peu manipulé, mes frères et sœurs se moquaient de moi, et j'étais complètement dingo de compter, de faire ce genre de choses. Et puis, ce genre d'énergie, en fait, c'est ça le problème, c'est que ils utilisent notre tristesse et notre colère, enfin toutes les énergies négatives, pour nous pour nous enlever notre force vitale, en fait. Et ça, j'ai mis longtemps à le comprendre. Et dans cet épisode qui a été un peu particulier, que ma mère, justement, a lu, parce qu'elle m'a dit, là, elle qui lit mes livres, m'a dit, là, on est sur toute autre chose. Et elle me dit, je me rendais pas compte de ça. Et quand, effectivement, il y a eu un moment où j'étais en train de compter, et j'étais pas bien du tout et tout, après toutes ces années, il y a cette voix bienveillante qui est arrivée, qui m'a dit, stop, arrête. Crois-tu sincèrement qu'il peut quelque chose contre moi ? Mmh. Et là, du jour au lendemain, j'ai arrêté, tout est parti. Tout est parti.
C'est incroyable.
C'est pour ça que ça peut paraître hallucinant aux gens, mais je peux vous assurer que il est là. Il est, peu importe il, elle, ce qu'on lui donne comme nom, enfin, en tout cas, qui est derrière tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est que vous ressentez cette force, en fait, cet amour, voilà. Et à partir de ce moment-là, a commencé mon cheminement. Et avec les années, aujourd'hui, je sais effectivement que il faut faire très attention à notre état d'être, parce que c'est cet état d'être qui va attirer vers vous telle ou telle chose, qui va peut-être aggraver telle ou telle chose. Et il faut rester dans le cœur, complètement. Ne pas céder à la panique et croire qu'il y a quelque chose qui va venir nous aider, en tout cas dans la bataille, quoi. C'est un peu ça.
Et ça responsabilise aussi.
C'est ça. C'est important que chacun se responsabilise dans ses émotions, parce que même s'il y en a une grande majorité qui s'en rend pas compte, ses émotions et la manière dont on se comporte avec nous-mêmes ou avec les autres transpire au quotidien, et justement alimente telle ou telle chose. Donc plus vous allez être dans les choses positive, plus vous allez vous battre contre cette chose et garder ce côté cœur, et plus vous allez attirer à vous plein de belles choses, plein de belles aventures, quoi. Mmh.
Tu continues sur ce passage avec cette citation incroyable. « Sois courageux et ne crains pas les colères de Lucifer. Rappelle-toi toujours que si l'ennemi jette l'agitation ou le trouble dans ta volonté, c'est signe qu'il ne l'a pas vaincu. »
Ouais. C'est une merveilleuse citation que j'ai trouvée dans les prières, entre guillemets, qui avait été faite par Padre Pio, que ceux qui connaissent, une grande figure ecclésiastique, mais qui pour moi reflète le côté humble du côté religieux. Schlatter, Philippe Schlatter, qui est alsacien et qui a eu un parcours incroyable aux États-Unis. Il a guéri tout plein de personnes, quoi. Ouais. C'est vraiment, il est né, il entendait pas, il voyait pas, sa mère a prié et du jour au lendemain, ça a changé sa vie. Il a toujours été très, très humble, quoi.
Ah oui, c'est incroyable. Alors, tu dis aussi que tu ne veux pas persuader tes lecteurs qu'il existe quelque chose, mais que la véritable folie serait quand même de nier qu'il existe plus grand et un monde subtil.
Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, chacun peut croire ce qu'il veut. On peut ne croire, ne pas croire, etc. Mais on ne peut pas nous enlever l'idée que même la personne qui est athée, elle n'est pas arrivée là... par hasard, quoi. Ouais. C'est le processus de quelque chose, de la vie, peu importe le nom qu'on lui donne, mais la vie est partout dans l'univers. C'est d'ailleurs la vie, elle ne fait que ça, créer et encore créer. Et pour créer, il faut qu'elle détruise. Et c'est pour ça qu'il faut pas s'inquiéter de ce qui peut arriver, de ce qui, voilà. Ouais. Parce que à des milliards d'années-lumière au-dessus de nous, il y a des galaxies, des trous noirs qui s'explosent les uns contre les autres et heureusement qu'on le voit pas, parce qu'il y en a qui seraient en train de se pendre, quoi. Mais, mais ça fait partie de la création, tout simplement. Oui. Il faut laisser partir pour pouvoir amener de nouvelles choses, quoi.
Ça, c'est très important, effectivement. Alors, tu dis la vie est partout, ça tombe bien, parce qu'en ouvrant ton livre de façon aléatoire, je tombe sur l'aura des arbres, où tu demandes à un moment donné d'avoir le privilège de sentir l'aura des arbres.
Ouais. C'est alors déjà avant cette expérience-là, j'avais eu la chance de ressentir le battement d'un cœur, enfin ce qu'on appellerait un battement de cœur d'un arbre, en fait, dans une petite commune. Plus tard, je me dis, j'aimerais bien quand même, vu qu'on vit dans la forêt, j'aimerais bien pouvoir sentir l'aura des arbres. Et Le lendemain, je vais au travail. À ma pause entre midi et deux, j'ai l'habitude d'aller dans un arboretum où il y a un arbre assez grand. Et là, je vois un gars qui me regarde, qui sourit, etc. Et je fais ma petite méditation, mais j'en tiens pas compte. Mmh. Et après ma méditation, je passe devant lui, je lui dis bonjour. Et là, il me dit, vous ressentez des choses? Je lui dis oui, mais j'aimerais bien. Voilà, c'est vrai que j'ai les arbres, je sais pas comment. Et là, le voilà parti qui commence à m'expliquer. Paf, paf. Je sentais un magnétisme, etc., incroyable. Mmh. Et du coup, il m'a appris à ressentir encore plus les choses, quoi.
Incroyable.
Donc, 24 heures après, j'avais ma réponse à ma demande.
Comme quoi, voilà, la fluidité, se permettre de vivre, de ressentir, d'accueillir.
Tout à fait.
Et ça, c'est très, tout très à fait important. À la fin du livre, il y a des pages blanches.
Oui.
Explique-nous ça.
Eh ben, en fait, j'ai laissé ces pages blanches parce que je me suis dit, le lecteur va peut-être, au fur et à mesure des mots, repenser à certaines choses qui lui sont arrivées ou des choses qui vont lui venir. Peut-être que sa propre petite voix va lui dire des choses. Et donc, j'ai laissé ces pages blanches pour que le lecteur puisse compléter, écrire lui-même la suite de ce livre et de ce qui nous lie. Et peut-être comme ça prolonger justement cette immense bibliothèque qui a commencé il y a bien longtemps et qu'on partage tous d'une manière ou d'une autre, quoi.
Ouais. On aurait pu faire une émission de 3 jours. On va pas se
Je
mentir.
Pense, ouais. Je pense.
On va se lancer dans mon 3e disque chouchou avec Arca, un titre de Daniela Pes. On écoute ça tout de suite et on se retrouve juste après. Será titre complètement transcendant, on va pas se mentir.
Complètement. Alors, je peux te dire que j'ai eu une image de dingue là.
C'est vrai?
Ah ouais.
Oui, je t'ai vu avec un grand sourire.
Cette musique là, elle a résumé toute l'expérience d'une âme quoi. On perçoit le bip qui arrive de loin, bip, comme si l'âme allait arriver petit à petit sur Terre. Et petit à petit, on entend le bip de plus en plus fort, et ce qui m'a fait penser aux machines, quand on est relié, tu sais, quand il y a l'accouchement, ouais, etc. Ouais. On entend le bip, bip. Et puis, il reste tout au long de la vie, et après, on entend le bip, bip qui s'éloigne, comme s'il repartait vers autre chose jusqu'à,
ah,
tu vois.
C'est beau.
C'est vraiment cette impression-là que j'ai eue dans cette musique, quoi.
Tu
incroyable.
Sais que c'est des sons que je ne connais pas du tout et que je choisis à chaque fois que tu viens de façon complètement. Enfin, en fait, je pense que ça vient pas de moi.
Ouais, non.
Tu sais, je pense juste qu'on me dit, tu vas mettre ça dans l'émission de Jérôme, et ça lui plaira, t'inquiète pas. Les écoute même pas, tu sais que ça va lui plaire. C'est quand même incroyable parce qu'à chaque fois, ça nous fait le coup.
Ouais, mais franchement, tu vois, moi, je perçois les phrases, toi, tu perçois de manière musicale.
Oui, ça, c'est vrai.
Voilà.
C'est tout à fait vrai. Jérôme, je pense que pour ton prochain ouvrage, il va falloir que tu reviennes pour parler de Brume, car là, on arrive à la fin de cette émission. Ce serait quand même dommage de ne passer que 10 minutes à discuter de cet ouvrage. On va quand même planter un petit peu le décor. Hein. Brume, tu l'avais sorti en avril dernier, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Un thriller polar qui prenait racine avec le harcèlement. Alors peut-être que tu peux nous dire un petit peu pourquoi tu avais choisi d'écrire sur ce sujet fort.
Parce que je pense qu'on est tous à un moment donné harcelés et harceleurs. Mmh. Et qu'on se pose en victime, en bourreau, en juge, en tout ce que tu veux. Et j'ai eu envie justement d'utiliser ce thème pour ramener, entre guillemets, essayer de faire remonter à la surface aussi tous ces cold cases qu'on a dans les Vosges, que beaucoup ont oublié et qui ont été en lien avec la rivière, avec l'eau. Et c'était une manière de purger pour moi, de rappeler la mémoire de toutes ces personnes disparues, hein, qui, il y en a dont le plus ancien pour moi date de 1949.
Ah oui.
Donc il n'y a pas le petit Grégory, c'était une chose, mais je peux vous assurer qu'il y en a eu d'autres.
Ah ouais.
Et c'était une manière pour moi justement d'essayer de comprendre. Est-ce que le harcèlement, est-ce qu'il y avait eu quelque chose, qu'est-ce qui nous motivait à harceler ou à ne pas harceler les gens et d'essayer justement de réconcilier un peu au travers de ce livre les gens entre eux, quoi, entre guillemets, voilà.
Tu dis que tu as été complètement guidée pour écrire Intime.
Oui.
Est-ce qu'au final, c'est un petit peu le cas pour tes autres ouvrages ou pas du tout?
C'est un peu pareil, mais là c'était vraiment extrême parce que il est quand même sorti en 3 semaines.
Ah ouais.
Donc
incroyable. C'est pour ça qu'on est obligé d'en présenter 2 à chaque fois dans les émissions. Il écrit trop vite.
Mais oui, non, celui-là, c'est vrai qu'il a été très très rapide. Je m'attendais pas à le sortir après Brume en fait. Ça a été vraiment comme si ça répondait à un besoin impératif pour moi, mais aussi pour d'autres personnes, quoi.
Ouais. J'aime bien faire un petit fil rouge entre mes invités. La dernière fois, j'avais reçu Stan Duguay, violoncelliste, qui me disait que la musique était un petit peu le médicament de l'âme, selon lui. Que dirais-tu des mots et de la littérature?
Les mots et la littérature, je pense que ce sont des exutoires, mais que la véritable chose, c'est la plus importante pour moi, c'est le fait que ça soit la pensée, en fait, qui nous mène à tout ça, en fait. La musique n'est que le résultat de la pensée, les mots aussi. Et on n'a pas besoin de parler ou d'écrire pour ressentir et se comprendre.
Ouais. Après, c'est une question de vibration. La musique, c'est beaucoup de vibration. L'écriture aussi, finalement, mais dans une autre dimension. Peut-être que tout se rejoint, finalement.
C'est ça. C'est ça.
Est-ce que tu as d'autres projets d'écriture là à venir ou pas?
Là, je vais faire une petite pause, j'en ai d'autres, mais là, honnêtement, ça sera pas avant l'année prochaine parce que ça m'a laissé un peu sur les rotules.
Comment on se sent après avoir écrit un livre comme Intime, par exemple?
On se sent à nu, mais bien. Parce qu'en fait, c'est comme si je l'avais déjà accepté, mais ça permet maintenant, ça va peut-être permettre aux gens, même à mes proches, de voir ce que j'ai traversé, ce qu'on a traversé ensemble, et de peut-être de comment dire, de voir réellement ce que je suis en fait, ce que nous sommes. Et j'espère que cette émission, en tout cas, ce que ce livre parlera beaucoup et vous ouvrira les portes de vous-même, parce que c'est vraiment ça. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ce livre, en fait, quand je vois les gens avec les réseaux sociaux qui se font des photos, des machins, etc., des vidéos, en fait, ils se montrent, mais ils se montrent pas réellement. Aujourd'hui, à travers ce livre, je pense que je me montre réellement, et peu importe ce qui adviendra, j'ai pas besoin de... Voilà, j'ai essayé de montrer ce que ma nature est... J'essaye de montrer que chacun de nous a cette nature-là, en fait, tout simplement. Soyons simplement, faisons tomber les masques et acceptons la chose. Tu vois, si je peux me permettre, s'il reste un peu de temps,
bien sûr.
J'aimerais parler d'un épisode dont je parle dans le livre, qui pour moi est très important, parce que je parlais tout à l'heure des médecins. Une fois, j'ai eu un coup de fil il y a quelques années d'une personne qui a eu mon numéro... par une autre personne, et ce monsieur était un chirurgien à l'autre bout de la France, et qui m'avait appelé parce qu'il avait mal aux mains. Les deux mains étaient bloquées, il pouvait plus, en fait. Et dans ma tête, la première réaction que j'ai eue, c'est, je me suis puré, qu'est-ce qu'il va penser, il va peut-être me voir comme un charlatan, tu vois ce qu'on peut penser, on se dit pourquoi un médecin m'appelle, on sait jamais, voilà. Et donc, il m'explique la chose, et je lui dis, écoutez, je vais faire le soin, on verra bien ce qu'ils me disent, et je vous rappelle. Et donc, je pose la question, je reçois mes réponses, et on me dit, demande-lui en premier lieu s'il a pas vécu quelque chose de particulier ces dernières semaines. Nous, on le sait, mais lui, il doit le trouver. Et dis-lui de mettre ses mains en prière et de faire un Je vous salue Marie. Et là, je dis, attendez, là, c'est un médecin, je peux pas arrondir les angles, là, parce que là, il va me prendre pour un dingo, quoi. Non, il dit, non, tu lui dis texto, il met les mains en prière, il dit, je vous salue Marie. Alors, bon, je rappelle le stick, je lui dis, voilà, vous faites ça. Et je me dis, waouh, qu'est-ce qu'il va me dire? Le gars, il me dit, ok, je vais faire ce que vous dites, puis je vous rappellerai demain. Il me rappelle le lendemain, il me dit, écoutez, monsieur Bonnet, là, il y a un truc que je ne m'expliquais pas. Il m'a dit, j'ai fait ce que vous m'avez dit juste après que j'ai raccroché. J'ai mis mes mains en prière. Mes mains ont brûlé pendant 5 minutes. Mais quand il dit brûlé, elles m'ont brûlé. Après les 5 minutes, après le Je vous salue Marie, ma main droite n'avait plus de douleur. Ce matin, ma main gauche n'a plus de douleur. Et j'ai pensé à ce que vous m'aviez dit, la question que vous m'aviez posée. Et effectivement, il y a 3 semaines de ça, il y a ça qui s'est passé, mais j'avais complètement occulté. Et il m'a dit, je suis médecin, je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé, de qui vous tenez ça et quoi, voilà. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai plus mal à mes mains, et ça fait 3 mois, 4 mois que j'avais mal à ces mains-là.
Oh, incroyable.
Et c'est pour ça que j'en parle, parce que au-delà de toute science, au-delà, et j'en parle. Enfin, j'aimerais rendre hommage aux médecins, enfin à tous ceux qui restent dans cette humanité et qui restent dans cette on va dire, qui mettent de côté leur ego et qui acceptent d'aller chercher l'aide, pas forcément chez des personnes comme moi, mais d'aller trouver de l'aide auprès de leur famille, de réconfort, parce qu'ils ont besoin, ça reste des êtres humains. Et c'est ça dont on a besoin aujourd'hui dans le monde médical, c'est de l'humanité, du respect du personnel, des personnels et des patients, et que chacun puisse avoir le temps de se reposer et qu'on puisse être d'humain à humain pour qu'on puisse... avancer, prendre soin les uns des autres, quoi.
Bah oui, tout à fait. Voilà. Ça, c'est un beau message. Merci, Jérôme. Auditeurs, on te laisse retrouver l'intégralité de ce nouvel ouvrage de Jérôme Bonnet, Intime. Disponible où ça, Jérôme?
Pour l'instant, sur Internet, sur Amazon. Et je pense que j'y en aura à la boutique du Dragon à Remiremont, chez Christophe Voinçon. Ouais. Parce qu'on va, c'est un ami, on s'est vu il y a pas si longtemps que. Et d'ailleurs, je vous encourage aussi à lire son livre, parce qu'il est incroyable aussi, ce parcours de guérisseur. Et je lui fais un petit clin d'œil. Et il m'a proposé l'autre jour, gentiment, de déposer des livres là-bas. Donc, super. Il y a des grandes chances que ça soit là-bas.
Super. Jérôme, on reprend rendez-vous pour parler de Brume,
avec
du coup.
Avec plaisir, ouais.
J'espère que tu m'en veux pas.
Non.
Voilà, mais bon, je m'en doutais dans mon fin fond intérieur. Je savais qu'on n'arriverait pas à faire les deux parce que je suis tellement subjuguée par ce sujet, ça me parle tellement forcément. On reste humain, comme tu l'as dit.
Tout à fait. Hein.
Et voilà, parfois c'est beau aussi de se laisser porter par ce qui est en train de se passer sans essayer de tout calculer. Voilà.
Exactement.
Demain, je suis en direct de l'odeur du son à midi avec Anthony Defranou, coach en respiration. Un autre sujet qui promet d'être plutôt plus qu'intéressant. Merci beaucoup Jérôme de m'avoir rejoint dans les studios de RGM. Qu'est-ce que je te souhaite pour la suite?
D'être encore plus moi-même.
Ah, c'est beau.
Tout
ça.
Simplement.
C'est beau. Est-ce qu'on te retrouve en dédicace bientôt, peut-être?
Oui, il y aura bientôt une dédicace à l'Épange en fin de mois.
Ouais.
Et après, vont s'enchaîner le livre sur la place, Besserlin. Et puis, j'ai 3-4 salons qui vont arriver.
Mais avant ça, on se repose, on se recentre.
Exactement.
Et voilà,
on se
sent vivre. Et ça,
et voilà.
C'est beau. Auditeur, je te laisse avec la suite des programmes sur Radio Gémozo. Cette émission sera podcastée et rediffusée très prochainement. En attendant, c'est comme à chaque fois. Tu prends bien soin de toi et tu prends soin des autres. Allez, kiss. I can't hold on.